Ceci aurait dédié à l'Elouni Shaman, l'élévation de l'âme de Yeriel ben Yeria ben Ben Alice et de Shomo Miriam, Zichrona Livracha.
Hier, on a dit que en fait, Dieu sait tout, mais il nous laisse décider. Donc, j'allais poser la question, pourquoi alors...
Si c'est qu'on va se planter, pourquoi est-ce que... Alors, la réponse plus profonde à cela, elle est dure à comprendre. Il y a deux réponses. La première, les deux ne sont pas contraires, quoi. Elles se rajoutent l'une avec l'autre. Première réponse, c'est que Hachem n'est pas dans le temps. C'est une chose qui est dure à comprendre, parce que nous, on vit que dans le temps. C'est très pour nous comprendre comment est-ce qu'on peut être pas dans le temps. On a fait un cours dernièrement qui s'appelait, après on appelait Hachem et la relativité. On a parlé beaucoup de la relativité, de beaucoup que en fait, les conditions que nous avons ici, les repères que nous avons ici, sur la planète Terre, ils sont tout à fait relatifs. Et en fait, ils peuvent changer. Donc il y a des endroits dans l'espace où il n'y a pas de temps. Et Hachem, par exemple, il n'y a pas de temps chez lui. Alors dès lors, la question qu'on pose, si Hachem sait à l'avance ce que je vais faire, alors où est mon libre arbitre? Ça n'existe pas. Ou bien, si on a répondu que même le fait qu'il sache à l'avance, ça n'enlève pas le libre arbitre, il y a une deuxième question qui dit, si c'est maintenant que, pas mon libre arbitre, je vais choisir, mais je vais me planter, je vais faire le mauvais choix, pourquoi il me crée? Réponse, il y a deux réponses. Première réponse, c'est qu'il n'y a pas avant et après. Chez Hachem, le temps n'existe pas. Ça veut dire que simultanément, il y a la décision de créer ce monde, la création de l'homme, la création de la personne dont on parle, les choix qu'il aura, sa mort, son jugement, son enfer, son paradis, Triat HaMetim, tout ça est en même temps. Vu que c'est en même temps, il n'y a plus de questions. Oui.
Il y a des histoires comme quoi des gens sont partis là-haut, ils ont été jugés, donc il y a encore du temps là-haut.
J'imagine que là-haut, on parle aussi de... notamment dans les écrits, on parle qu'il y a Gan Eden HaTarton et Aelion, le Gan Eden d'en bas et d'en haut. Il y a une infinité de degrés. Et j'imagine que plus on monte, plus on rapproche d'Hachem, plus on arrive dans une autre dimension. Qu'est-elle? C'est marqué... Personne ne sait ce que c'est. Maintenant, deuxième réponse. Yes. Si c'est des questions sur ce que je viens de dire, oui.
Je vois en quoi ça enlève la question.
Ben, si la question elle est s'il voit à l'avance.
Oui, sans parler de raison ou pas, c'est-à-dire il y a un fait que je vais me tromper et lui il accepte ça.
Non. Quand tu dis fait, c'est-à-dire que lui voit que tu vas te tromper et il accepte. Pourquoi me donner le libre arbitre? Si c'est simultané, il n'y a pas que. Si c'est simultané, il n'y a plus rien. C'est...
Si, mais entre guillemets, moi, je vais jouer, lui, les Khatriyah accepte que...
Quand tu dis les Khatriyah, tu dis qu'il y a eu avant.
Non, d'accord, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire, en soi, le fait même...
Même parce que tout a été déjà écrit.
Voilà, c'est une décision qui est acceptée. Qu'elle soit simultanée ou pas, on s'en fout.
Moi, je comprends que si c'est simultané, il n'y a pas avant, après. Ça ne suffit pas comme réponse, la deuxième devra suffire. Qui sera aussi double, ma réponse, ma deuxième réponse. Deuxième réponse, elle est que... Il est clair que l'enjeu en valait la peine, même si quelqu'un se plante, et l'immense majorité de l'humanité se plante, ça valait la peine de créer quand même l'homme avec le challenge de pouvoir se brancher avec Hachem. Parce que, en soi, la création le fait de créer un être qui a un libre arbitre, c'est tellement grand que ça vaut la peine déjà, même avec toutes les erreurs qu'il pourra y avoir. De plus, ma deuxième réponse, non la deuxième réponse, il faut comprendre une notion très importante. On peut avoir l'impression que lorsqu'on fait un péché, ça a un impact aussi grand que de faire une mitzvah. C'est pourquoi la mitzvah, elle est en bien, et le péché, il est en mal. Or, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi ? Parce que le péché, je vais investir dans le monde du mal. Le monde du mal, il a une fin. Il y a une époque où le mal s'arrête. Ma chère vient, qui marque Bavir, Edouard Hatouma Mina Aretz. Dieu, il enlève le mal du monde. Il y aura ceux qui auront fait beaucoup de mal qui seront en enfer. Et un beau jour, on ferme l'enfer. Il y en a même quelques-uns, c'est marqué que pour eux, l'enfer s'arrête et pour eux, ça continue. Eux, ils font des heures en plus, d'accord, des années en plus, des millénaires en plus dans l'enfer. Mais eux aussi, un beau jour, l'enfer s'arrête aussi. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est au lieu d'investir dans Hachem, dans ce qui est éternel, j'investis dans l'éphémère provisoire mortel. Bon, t'as investi. T'as pris de l'énergie de vie, t'as pu faire avec ça de l'éternité, t'as fait du rien, de la gnognotte. D'accord? Voir un match, par exemple. D'accord? Ok. Tu as payé pour ça. Traite. Non, je rigole. Ok. Une fois que tu as payé, terminé. La mitzvah, l'impact de la mitzvah, c'est éternel. J'ai souvent dit que mitzvah, c'était les lettres, les deux dernières lettres du mot mitzvah. Même tzadik vav hei, les deux dernières lettres sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, yudke vavke. Vavke. Les deux premières lettres, même tzadik, sont atbash, un alphabet mystique. A correspond à taf, at. Aleph, taf. Première correspond à dernière. Bet, deuxième, avant-dernière. Gimel, aresh. Dalet, akouf, etc. En atbash, les deux premières lettres du mot mitzvah sont yud et puis hei. Le mitzvah est égal yud kevavke. Quand tu fais le mitzvah, tu crées une réalité d'Hachem. Tu crées une réalité d'Hachem éternelle. Combien elle vaut par rapport au mal? Le mal est dans le monde du fini. Combien ça vaut? Tu as fait des maths, toi, non? Combien ça vaut beaucoup, beaucoup de fini? Un milliard de milliards de milliards de milliards de mondes par rapport à l'infini. Combien ça vaut? Rien. Donc, en fait, le mal, tout ce olam hazé qui nous attire tellement, il n'a aucune valeur. Maintenant, tu investis dedans, ok, tu as investi, tu payes, mais ça a une fin, cette facture, vu que l'investissement, il y avait une fin aussi. Donc, toutes les factures ont une fin. Les mérites de olam haba, de Hachem, ils sont sans fin. Donc ça valait extrêmement la peine qu'Hachem y crée un homme qui va se planter toute sa vie pour une mitzvah qu'il fait. Parce que pour une mitzvah, il a gagné Olam Haba. Hein? Il gagne déjà, il gagne beaucoup. Maintenant,
c'est comme un roi qui dit, il a fait ça, il a fait Olam Haba. Ça, Olam Haba. Il a fait une misère pour ce Olam Haba.
Alors j'ai souvent dit ici, au nom de Rav Eliashiv, Rav Eliashiv, pas celui-là actuel qui a 102 ans, son grand-père. C'était un des plus grands kabbaliste, peut-être le seul grand kabbaliste ashkénaze de la génération d'il y a un siècle environ, qui a dit, c'est très clair, que tout ce qu'on dit maintenant, que les personnes qui n'ont pas part au Olam Haba ou que l'enfer ne s'arrête pas pour eux, c'est marqué aussi, Vayul Deharon Olam, c'est marqué dans Daniel, ils seront pour une Deharon, pour une déchéance éternelle, tout ça, ça a une fin. C'est l'éternité qui a une fin, parce qu'on passe au sixième millénaire, après au septième ou huitième, je ne sais pas, au bout d'un moment, c'est impossible, parce que chaque âme juive fait partie de la divinité. Alors, il est impossible qu'il en manque une partie. Mais l'oïdar, les balles, idar, mais menon idar. C'est marqué comme ça dans David Ameller, dans Shmuel. Les balles, idar, menon idar. Il est impossible qu'on disparaisse un disparu. Tout le monde doit réintégrer la Kedusha. Il est impossible qu'il manque quelque chose. Donc tout le monde y aura droit. La question, pour arriver, ils auront des chemins très difficiles. Mais sauf, tu as droit à ça. Pour y avoir droit à cette union avec la divinité pour l'éternité, il fallait passer par Olam Hazé. Parole basée, ça veut dire avoir le choix, les choix. Et tu as fait les mauvais choix, ça va bien. À un point tel qui pose la question. Alors, dès ce moment-là, pourquoi se casser la tête? Éclate-toi. Et pour finir, on t'arrive toujours au même endroit. Il donne trois réponses. Je vais me souvenir des trois. La première réponse, il dit, sauf, c'est une réponse profonde, je ne sais pas si vous la comprendre, sauf, là, tu as fait retourner Hachem. Là, tu n'as pas fait retourner Hachem. Je vous rappelle ce que j'ai parlé hier un peu. La Torah, sauf, c'est une histoire d'amour. C'est pas tu fais, tu reçois. Ok, on n'est pas ici pour pointer, d'accord? J'ai droit, j'ai pointé. Ça, c'est petit. Histoire d'amour. Là, tu as été contre Hachem. Hachem, qui t'a créé, qui t'aime, qui est créateur du monde, qui fait tout pour nous. Comme ça, tu lui rends. Stam, c'est faux. Première réponse. Deuxième réponse, il y aura quand même une nuance. Celui qui est allé dans la bonne voie, et celui qui est arrivé tordu. Il arrivera, mais c'est pas la même chose non plus. Troisième réponse. Je pense, je ne sais pas, je me souviens plus ce qu'il a dit, mais moi je rajouterais, si c'est ça, je ne me souviens plus, les programmes de récupération pour y arriver, c'est balèze. C'est certain que la souffrance qu'on a pour y arriver sont beaucoup plus grandes que le plaisir que tu as eu.
Mais on ne peut faire qu'un an de gagner, non?
Ça, c'est pour les rachaïm normaux. À l'éveil qu'on arrive à ce statut-là.
C'est quoi normaux?
Qu'est-ce que c'est
un rachat normal? C'est par exemple tous ceux qui sont... Bon, on dévie là. En deux mots, tous ceux qui sont sortis du clan Israël. Ils n'ont plus un statut de rachat, ils ont un statut qui est pire. Celui qui sort de Kal Israël n'a pas un statut de rachat, tu comprends?
C'est quoi
sortir? Mechaïch Obel Faresia, Obel Avozara, Apikores, Martit Arabim. Non, Racha, c'est quelqu'un qui il va en boîte. Qu'est-ce que tu dis, ça s'appelle, un rachat dans la Torah. Rachat, c'est quelqu'un qui fait la vérote au niveau, surtout avec les filles, il est chômeur Shabbat, machin.
Je suis personne. Là, pour David, c'est
ça s'appelle un rachat. Ça, c'est un rachat. C'est pas bien la boîte. Non, tu me dis, ouais, je te réponds. T'as de la chance.
Quand vous dites qu'on va bruit, c'est-à-dire que quelqu'un va venir, est-ce que c'est
ça chère, elle pourrit dans la. Non, c'est lui, c'est la pression. Quand quelqu'un met le doigt sur la flamme, ça fait mal. Qui a mal le corps?
J'étais anesthésié, t'avais mal.
Je racontais souvent que j'ai la fille de mon ravota à l'époque, elle avait ouvert la vitre comme ça, elle avait dans une vitre et c'était ouverte. Alors quand on s'ouvre ici, ça coupe donc et les veines et aussi les nerfs. C'est-à-dire que bien qu'on a, on l'a recousu, on lui a dit, les nerfs, pendant quelques semaines, tu ne vas plus sentir. On ne sent plus. Très attention où tu mets les mains. Parce qu'elle peut mettre ses mains sur le gaz, d'accord, donc sur la cuisinière, allumée. Elle ne sent rien. Ça sent la viande. Ça sent la grillade. Elle voit sa main toute noire. Donc, voyons que c'est pas le corps. Le nerf, il fait passer un message chimio-électrique au neurone. La neurone responsable de la douleur fait tic-tic-tic comme ça, qui passe ce message à moi, à mon nefesh. Mon nefesh, il ressent la douleur. C'est le nefesh qu'on mettra au guénom. Tov. Donc le guénom, il a une fin. Même ceux qui n'ont pas, le guénom n'a pas faim pour eux, il sort aussi une faim. Donc dans tous les cas, ça valait la peine de créer quelqu'un, parce qu'il va quand même pouvoir, en fin de compte, participer à cette aventure extraordinaire d'être branché avec Hachem.
Il sera là-dedans, c'est-à-dire qu'il sera moins que d'autres, il sera moins branché, il aura le niveau, quoi.
Il a dit un peu moins. Il dit, en fin de compte, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est presque la même chose. Ken.
Ça veut dire que ça n'existe pas quelqu'un qui est zéro mitzvot.
Ça existe.
Alors lui, il a servi à rien. Ouais.
Ça existe.
Il
reviendra en Gilgoul.
Il n'y
a plus 4. Il revient en
Gilgoul. D'accord, mais alors c'est quand même lui. Alors Gilgoul, c'est aussi lui. Donc quelqu'un plus, c'est Gilgoul, ça n'existe pas qu'il fait 0 mitzvot.
C'est marqué que si quelqu'un vient ici 3 fois sur Terre, sans avoir rien réparé du tout, alors il disparaît. Mais je pense que c'est théorique, je ne pense pas que ce soit vraiment.
C'est possible de disparaître, parce que vous avez
voilà. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc je pense que ce que c'est théorique et pas. Hachem fera en sorte que. Pas qu'il fasse une mitzvah, qu'il souffre.
Oui,
souffre,
c'est une mitzvah.
Voilà.
Mais là, tu vois, c'est en tchouva le bénin.
Bien sûr. Tu fais tchouva par amour d'Hachem. Tu transformes tes averot en mitzvot. Par crainte, ça descend d'un cran. Là, tu vois, par crainte, descend d'un cran. C'est fantastique.
Vous avez dit qu'il n'y a que le Nefesh qui
va
au
Guénard. Non.
C'est-à-dire que la Neshama, elle va aussi au Guénard.
Non, chacun a son. Quand on décède, chaque partie de nous-mêmes va autre part. Ouais, il paraît qu'il y a même des gens qui peuvent être sur Terre et leur Neshama est en Guénard à ce moment-là.
Et il ressent un peu.
Non, c'est un échama là-bas. C'est une partie de lui. On a un patchwork de plusieurs parties d'âme de différentes personnes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu peux avoir une partie de ton âme qui est au Guénard à ce moment-là, ou au paradis, d'accord. Bon, je ne connais pas très bien. C'est des trucs mystiques juifs. Ça ne change pas grand-chose.
Ça veut dire que là, on a les sensations du Guénard.
Il y a des sensations, j'ignore ce que c'est. Alors, dans ces livres-là, on en parle. J'imagine qu'au niveau du Nefesh, c'est des sensations qui sont comme des sensations physiques. Au niveau de Ruach Neshama qui sont plus hauts, ça doit être autre chose. J'imagine que le Guénom de la Neshama, c'est pas être dans les chaudrons. C'est la honte de voir Hachem avec une tache. Tu comprends? Oui, Jordan.
Moi, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, si dans la vie, on a fait beaucoup plus de mitzvot que d'Averot, est-ce que, pour réparer les Averot pour être parfait, le passer par le Guénom, est-ce qu'on peut diminuer notre compte?
Non. C'est deux comptes séparés, ça n'a rien à voir. C'est pas comme à la banque. Tu mets de l'argent, tu ressors. Non, absolument pas. Rien à voir. Deux comptes séparés. Oui, Philippe.
On dit qu'à la fin, tout le monde a réparé. Mais
tout est réparé pour tout le monde. Mais je crois que dans Imra, que le salaire
non.
Dans Imra, je crois, il est marqué que le salaire du Zod Berishaïm, il est payé. Il est payé ici
ouais.
Avec la valeur. Donc comment on fait? Parce que si d'un côté on dit que voilà, lui, on ne veut pas qu'il ait de mitzvot, on ne peut pas le faire payer du tout là-haut. Mais s'il y a sauf une.
Alors je t'ai dit que tout ce qui est marqué dans la Gemara, qui n'ont pas part au Olam Haba, c'est limité aussi.
Vraiment, là, on veut vraiment leur faire payer pour pas les mériter.
Oui, vraiment... ils n'auront pas le premier Olam Haba, mais le dernier, dernier, à la fin, ils auront quand même. Tout ce qui est marqué, il y a une Mishnah dans la fin de la première Mishnah du dernier Perek de Sanhedrin, dit Elou, Sha'elaim, Chayek, Olam Haba. Voilà, c'est ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Kol Yisrael Olam Haba, tout Israël est en Olam Haba, et ceux qui n'ont pas part. On te dit des noms des gens, des cas, d'accord? Donc il y en a qui se marquent, ils n'ont pas part. D'ailleurs, ceux-là aussi, ils n'ont part en fin de compte. Après beaucoup de temps, d'étapes, machin, tout ça, ils n'auront part aussi.
Un peu égoïste de faire tous ces mitzvot pour justement mériter un Olam Haba. Tout ça, c'est un peu réducteur.
Oui, j'en ai parlé hier, qu'il y a plusieurs niveaux. Le niveau millimétrique, c'est parce que tu auras de mauvaises notes à l'école. D'accord? Après, un peu mieux, Raphaël te fera un sourire. Un peu mieux, tes parents aussi. Un peu mieux, Olam Haba, l'enfer. Un peu mieux, la carotte. Tout ça reste millimétrique. Néanmoins, on a besoin de soi parce qu'on a des parties en nous qui sont millimétriques, qui sont très basses. Notre nef est plus... Je reprends. Le matin, quand j'ai entendu, tu vas te lever pour la prière, tu peux te lever maintenant. Quelle joie d'aller servir Hachem. Ou faut se lever parce que sinon je vais tomber d'aller au Shtiblach. Les deux ont un impact sur nous. Faut pas croire qu'on est connu Shama, d'accord?
Et sur le ciel, parce qu'on sait qu'on va passer une bonne journée sur le ciel, c'est quoi ton stage?
C'est déjà mieux, beaucoup mieux. D'accord?
C'est notre ego qui parle.
Oui, mais je te dis qu'on est partie d'ego qui est très grande maintenant. Il faut arriver, on appelle ça Mitor Shelo Lishma Balishma. En actionnant la partie égoïste, la partie millimétrique que j'appelle Nefesh, d'accord? C'est un starter qui te permet après de commencer à faire partir les parties beaucoup plus hautes de ton être. C'est dur de se lever le matin, je vais aller maintenant à quelle joie d'aller louer Hachem. Tu te lèves parce qu'il faut se lever. C'est casse-pied. Si je ne vais pas, Gehenam. Ok, je me lève. Je vais à la prière, je commence. Mais après que je suis déjà dans le bain, j'ai une demi-heure, tout ça, je commence la Mida, je vais me brancher et là faire une prière vraiment de tout mon corps. Pas ni Gehenam, qu'est-ce que tu parles maintenant? Je suis avec Hachem, je suis en train de parler avec Hachem, c'est beaucoup mieux. Il faut un starter. Le starter, ça s'appelle l'olishma. Il faut un starter. Et c'est pour ça qu'aux enfants, on est obligé de travailler avec un starter, la carotte et le bâton, d'accord? Ah, okay. Et là, c'est beaucoup trop, très souvent trop de bâtons pour passer de carottes. Mais nous aussi, on a besoin de ça. Au bout d'un moment, l'idée est d'arriver à faire les choses, pas pour avoir Olam Haba, par amour d'Hachem, par amour de la vérité. Parce que c'est kiffant, c'est tout. Pas kiffant, en plus, c'est très mal exprimé. Kiffant, ça revient encore pour nous. J'en ai parlé une fois avec l'internat, parlé de ça, parce que lui, il cherchait très longtemps le. Et je lui ai dit, quand tu aimes quelqu'un vraiment, tu fais par amour, point barre, fini. Qu'il y ait un feedback positif, qu'il n'y ait pas ce feedback, que tu sois heureux de le faire ou pas, rien à faire. Tu le fais par amour. Ça existe, du lishma, c'est-à-dire faire de façon désintéressée, par amour total. Oui, ça existe. Ce sont des petits moments qui sont très précieux, qu'il faut aller dans sa vie et cultiver et agrandir, etc., pour arriver à un niveau de le faire beaucoup plus souvent ainsi. Mais c'est ça le vrai but. Et ça, c'est tout à fait... on ne parle plus maintenant de mérite, on parle de situation. De vérité.
Quand on fait par amour pour une femme, par exemple.
Ouais.
On voit que la femme, elle nous le rend, et donc ça va être un cycle. Quand on voit qu'elle nous rend, je pense que ça donne encore un autre et encore plus. Mais la chaîne, on ne voit pas physiquement qui va nous rendre par rapport à nos efforts. Donc comment est-ce que ça va justement être en danger cette...
C'est faux, tu n'as pas compris c'est quoi l'amour. L'amour d'une femme, si quand tu lui donnes de l'amour, elle te le rend aussi, et ça t'encourage à faire plus, c'est pas de l'amour.
Je veux dire que comme on voit que sa réaction, même si elle ne nous le rend pas, on voit que sa réaction, même si elle ne va pas nous le rendre, elle est positive, on voit qu'on a fait du bien, on a créé du bien.
Oui.
Ok, donc forcément, comme on voit qu'il y a un impact positif, même si elle ne nous le rend pas,
oui.
Ça va nous forcer justement à renouveler la chose.
Ok, c'est pas donc, compliqué. Écoute, je vais donner un exemple maintenant. Tu vas envoyer maintenant un bouquet de fleurs à ta maman, que tu aimes beaucoup, pour son anniversaire. Mais un beau bouquet, à 300 euros. D'accord? Maintenant, aucune réaction. Tu n'as pas entendu les réactions. Mais tu es content. Tu n'as pas entendu les réactions. Chassé Shalom, il s'est passé. On n'a pas pu savoir après ce qui s'est passé. Voilà. Plus de nouvelles. D'accord? Chassé Shalom. Maintenant, t'es content au moment de le faire le truc?
Si ça se renouvelle avec pas de réaction,
non? Non. Quand tu le fais la première fois, parce que tu sais, tu seras contente.
Parce que non,
on ne sait pas.
Avant,
la
réaction. Ah,
non,
d'accord, ok, sur le coup, d'accord.
Non, c'est un plaisir aussi, mais lui le fait parce qu'il sait que c'est un acte qui fera du bien. Nous savons, sans que Hachem nous fasse un petit clin d'œil. Les clins d'œil, il y en a plein toute la journée, d'accord? Tu vois, après, tu sens la proximité d'Hachem, tu sens, il y a un feedback. Il y a les lacunes qui rentrent, il y a les petits miracles quotidiens auxquels tu as droit, la coïncidence quand même, juste au bon moment, Minachamayim. C'est des petits clins d'œil d'Hachem. Mais même sans ça, sachant que, d'après la Torah, quand tu fais ça, c'est un acte qui fait beaucoup de bien dans le monde. Ça suffit, pas besoin que tu aies un... C'est bon, reçu.
Non, mais ce bien, là, en fait, ça revient toujours à nous. En fait, on peut prendre nous. Quand je fais une bonne prière, quand par exemple, j'étudie, j'ai fait une bonne travaux de HBA, bah, c'est moi qui ai gagné, en fait.
Oui, mais je parle d'un niveau beaucoup plus haut. Tu le fais, c'est un niveau très haut. Tu le fais parce que c'est Ratzon Hachem. Et quand tu fais cela, quelque part, ça fait du Nachat Ruach à Hachem. Comment on dit ? Avant la mitzvot, les Shem Yachoud, je fais maintenant la sorte Nachat Ruach Leotzvenu. C'est une histoire d'amour avec Hachem. Tu fais parce que c'est bien.
Là, vous voulez me dire, je le fais la sorte de Leotzvenu. Donc, je le fais parce que Dieu est bien. Donc, aussi, je ne fais pas d'agra, parce que Dieu est bien. Ouais, donc on revient toujours au par rapport à la carotte et au pâte.
Pas du tout. Mais non.
Je le fais parce qu'il sera content.
Mais tu gagnes rien là-dedans. Carotte, c'est que tu gagnes une carotte. C'est bon la carotte.
Ah, et le bâton aussi.
Le bâton, ça fait mal.
La vera, oui.
Tu le fais pas. On peut maintenant ne pas faire la vera parce que c'est contraire à son Hachem. Et c'est tout. Ni Guénam, ni bâton, il n'y a plus. Ni Hachem maintenant, il enlève tout. Voilà, mais si on fait un exercice. Dorénavant, il n'y a pas de Gehenam, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mérite, il n'y a plus rien. Baitos, il a dit ça. Comment les Baitos, ils sont sortis? Tzadok et Baitos. Ils ont fait des Tzadokim et Baitos dans Avot. Ils ont dit, ah, t'es Shamshuotara, Amlekamekal Pras, ne servez pas le Seigneur pour recevoir maintenant une récompense, servez-le pour ne pas avoir de récompense. Ils ont compris, il n'y a pas de récompense. On va faire maintenant le même exercice, d'accord? Fini. À chaque fois, dorénavant, il n'y a plus d'enfer. Plus de paradis. Il n'y a plus de mérite pour les mitzvot, il n'y a plus de péché pour les averot. Tout est permis. Mais Hachem, il dit, moi, ma volonté, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez mes mitzvot. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas les averot. Enfin, j'aimerais bien. J'aimerais très fort. Mais il n'y aura aucune conséquence de ce que vous faites. Quelqu'un qui aime Hachem,
c'est autre chose.
C'est ça dont je parle. Ça, c'est Hachem Shamayim.
Mais c'est moi qui vais être
hein?
C'est moi qui vais être
en train. Ça pollue. Ça te permet toi, aujourd'hui de ne pas faire d'averot et de ne pas faire de mitzvot.
Oh, la récompense, le bien-être qu'on a quand on vient de Mara, on peut même s'il n'y a pas de récompense.
Ok, ça c'est le geshman de l'amazé. Ça c'est le. C'est très bien, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, admettons qu'il n'y a plus rien, on ne sent plus rien. Dis, maintenant, c'est quoi le Shem Shamaim total? Le Shem Shamaim total, c'est un très haut niveau. C'est faire les choses pas pour le sachar et pas pour la punition. Parce que c'est Retzon Hachem. C'est tout. Celui qui fait comme ça, c'est une histoire d'amour. Comme tu es marié avec ta femme dans le cas du couple religieux, et tu sais que ta femme, ça lui fera plaisir. Mais si tu ne le fais pas, ça revient strictement au même. Tu n'as aucun retour.
Quand vous avez dit ça, quand vous avez donné l'exemple, je pense que tout le monde a été touché.
De quoi? Qu'il n'y a plus d'enfer, plus de paradis, tout est permis.
Quand vous avez dit, mais simplement Dieu me dit que ça me fait vraiment très plaisir que tu le fasses. Je pense pas que quelqu'un n'a pas été touché. Si on vous dit que c'est un niveau très haut, mais sort, on a tous une neshama yéhoudite qui vibre.
Oui.
Donc le problème, est-ce que c'est un problème de niveau ou est-ce que c'est un problème de prise de conscience?
C'est très simple. On a une neshama qui vibre. Alors, est-ce qu'on vit au niveau de neshama ou on vit beaucoup plus bassement au niveau du corps? 99% du temps, on vit au niveau du corps. Quand tu te lèves le matin maintenant, ça ferait très plaisir à Hachem que tu te lèves. Bon, ça fait un plaisir à ce Oli aussi, d'accord ?
C'est pas un problème de conscience. C'est-à-dire si j'étais sûr maintenant, si c'était clair dans ma conscience, quand vous êtes en face de moi, que Hachem, ma machin lui fait plaisir.
Ah, bien sûr.
Je ne voudrais pas combattre Fitz.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est question de conscience.
En fait,
conscience de notre Neshama. Vive notre Neshama, oui, vive, absolument. Ken.
Quand on fait une erreur, on ne va pas se dire, si je vais faire cette erreur, je vais avoir une punition. Aucune personne ne se dit ça sans avoir conscience de la punition. Donc quoi qu'il arrive, quand on fait une erreur, on dit ça ne va pas plaire à la chaîne.
Si le père n'est pas content, mais aucune réaction. Moi, dans ce monde-ci, d'accord, je fais une mauvaise action, j'aurai aucun impact mauvais. Ni Olam Hazeh, ni Olam Haba. Jamais rien. Je ne vais pas voir, je ne vais rien voir. Simplement, je sais que ça c'est Retsoun Hachem, ça c'est pas Retsoun Hachem. C'est différent du cas du père, parce que le père, il va être triste. Il va montrer sa tristesse. Il va faire une remarque. Tout ça, ça s'appelle des sanctions quand même. Mais si par exemple, le père, il ne montrera rien, mais il sera triste, et là, il sera heureux. Et je fais maintenant pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit triste, ça c'est l'Hachem Shamaim.
À chaque fois, je fais une erreur, je ne me dis pas, j'ai peur pour plus tard. Je ne veux pas dire, je ne vais pas faire cette erreur parce que je vais me faire
voler au binaire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Moi non plus, l'enfer, ce n'est pas une chose qui me motive tellement à faire ou ne pas faire des avérotes. D'accord ? On essaie de se passer à un niveau plus haut. Mais il y a des gens chez qui ça fonctionne. Tout dépend du niveau de la personne. Les enfants, il faut leur parler. Peu gain, hein, beaucoup à la maba.
Justement, donc les enfants, on va pas les inciter justement à le faire pour la monde.
Un enfant, un enfant n'a pas de neshama.
Oui, mais il finira par en avoir une, donc il faut le préparer. Quoi.
Mais oui, mais tu peux lui parler un langage, comme je vous parle maintenant, un enfant, il comprend pas de quoi tu parles. Tu dis, lui, voilà, quand on fait, retourne Hachem, Hachem, il aime ça, et il y a une récompense. Et quand on ne fait pas, Hachem, il n'aime pas ça, et il y a une punition. C'est comme ça qu'on comprend un enfant. Et on doit lui dire ça. Maintenant, ça vaut la peine de plus monter le côté nishmati, le côté positif, que le côté négatif. Ça vaut la peine aussi de commencer à développer chez lui une moudaout, une conscience du bien qu'il y a de faire des mitzvot. Des récompenses toujours, mais plus haut. Il y a un exemple que je raconte. C'est Rav Jacobson qui raconte ça. Rav Jacobson, donc c'est un grand éducateur israélien. Il raconte qu'il était un jour dans son salon, à Zichron Yaakov, il regarde par la fenêtre, il habite un complexe de bâtiments, puis au milieu, il y a un petit jardin où les petites filles jouent l'après-midi. Et il voit qu'il y a des groupes de filles qui jouent à la balançoire, à la corde, etc., au ballon. Puis une petite fille qui sort, du même âge, qui a un problème psychomoteur. Bon, elle vient, comme ça, lui, il n'entend rien, il regarde, il y a la vitre. Mais il voit qu'elle rentre comme ça dans le groupe, elle essaie un peu de parler, tout ça, 30 secondes, elle voit qu'elle quitte le groupe. Elles ont dû demander, je peux jouer avec vous à la balle. Ils ont dit, écoute, on a pour père, on va voir. Bon, elle est partie, éjectée, elle va à un deuxième groupe. Deuxième groupe, ils jouent là-bas à la balançoire, 30 secondes, tac, éjectée. Troisième groupe, éjectée, elle va dans son coin, se met à pleurer. Bon, et il a eu pitié. De plus, il regarde par la fenêtre, il voit chez l'appartement des parents, il voit la mère qui regarde aussi, qui s'essuie, elle se met à pleurer, elle voit sa fille aussi, donc non seulement un problème psychomoteur, doublé d'un problème d'insertion sociale. Donc il appelle sa fille, le rab, il dit, ma fille, tu connais la petite fille, les voisins, tout ça, oui, je la connais, va jouer avec elle, papa, va jouer avec elle, on s'en bat, il faut dire une demi-heure qu'elle a, je te dis pas d'aller jouer avec elle pour jouer à la balle, je vais jouer pour être avec elle, pour elle pleure, elle n'a pas d'amis, sa mère qui pleure aussi, fais le mitzvah, la fille accepte. La fille joue pendant une demi-heure avec la petite fille, revient à la maison, voilà, papa, j'ai fait ma mitzvah. La petite fille, psychomoteur, rentre à la maison, maman, j'ai une nouvelle amie, on s'adore. La mère se remet à pleurer encore une fois, mais cette fois de joie, que Baruch HaShem, elle a une petite fille, elle a une petite amie. Et comme ça, des jours passent, des semaines passent, et la petite fille handicapée joue avec la petite fille du Rav. On est un soir de Shabbat, la petite fille du Rav adore la mousse au chocolat. On est vendredi soir, après le repas, dessert, mousse au chocolat. Le Rav dit, tu veux un peu de mousse au chocolat? Oui, tiens, prends. Tu veux une deuxième coupe? Oui, tiens, prends. Troisième, il la garde de mousse au chocolat. Moi, toute contente, on a plein partout. Le lendemain matin, il appelle sa fille, il dit, viens ma fille, dis-moi, la mousse au chocolat hier, c'était bon? Psst, délicieux. Il ferme les yeux, essaie de sentir maintenant en toi, pense à la mousse au chocolat, est-ce que tu ressens quelque chose? Non. C'est très bon là, je me souvenais, c'est très bon, mais là, maintenant, je ne ressens rien. Maintenant, pense à la fille que tu aides tous les jours. Et ferme les yeux, est-ce que tu ressens quelque chose? Ah oui. Ah, ça me touche ici. Ça me fait chaud ici. C'est un exemple très très beau. Comment éduquer un enfant où il voit la mousse au chocolat, c'est très attirant, mais il voit la mitzvah. Regarde, la mousse au chocolat, qu'est-ce qui t'en reste? Shumdavar. Ça, c'est en toi. T'as en toi une partie qui est réceptive à cela. Quand il me dit... Nachman. Il m'a dit, c'est un kiff d'ouvrir la Gemara, tu comprends? Ça, c'est une chose qui est très éducative. Un enfant, tu dis, tu dis, t'auras Olam Haba. Ok, Olam Haba, maintenant on va jouer au foot. Un peu de monde Olam Haba, je joue au foot, d'accord? Mais le kiff que tu as maintenant d'étudier, c'est céleste, c'est fantastique. Si on arrive à ressentir des joies ruchaniyot, c'est une éducation qui est très grande. On est encore dans Sahar va'onesh, punition et récompense. Au lieu d'une récompense qui est bête, mousse au chocolat, d'accord, tu donnes une réponse beaucoup plus grande que lui-même, il sent qu'en lui, ça construit quelque chose.